Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 22 mars, ravi de vous retrouver. Nous allons vous emmener dans un nouveau tour du monde pour revivre les grands moments de l'actualité de ces 7 derniers jours. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Nous allons faire une longue escale en France samedi, à la veille du premier tour des élections municipales. Nous sommes en compagnie de Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier des questions militaires. Bonjour Pierre Conessa.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. J'ajoute que vous êtes maître de conférence à Sciences Po à Paris. Alors vous êtes un spécialiste des questions internationales, mais la France vous intéresse aussi. Vous venez d'écrire « Surtout ne rien décider », manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique corrigé chez Robert Laffont. Un manuel impertinent.
Pourquoi non ? Il est réaliste. Vous le trouvez impertinent ?
Oui, un peu. D'ailleurs, il a reçu le prix de l'impertinence 2013. Bon, alors, Ce n'est pas pour me déplaire. Hein.
Vous devez avoir raison. Alors. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un constat un peu cynique, mais d'un rire triste, si vous voulez, sur le blocage de la vie politique et de la société française. Mais...
Il est urgent, sur le mode, il est urgent de ne rien décider. Quoi.
Absolument, il est urgent de ne rien décider, puisque de toute façon, nous sommes une grande puissance reconnue par l'univers entier, patrie des droits de l'homme, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, si vous voulez, si vous le dites en un seul mot. Et donc, à partir de là, à quoi bon se préoccuper du présent ?
7 jours dans le monde.
Alors d'abord, Pierre Conessa, partons pour Moscou. Lundi, donc, Vladimir Poutine a reconnu la Crimée comme État souverain dans la foulée du référendum de dimanche par lequel 97% des électeurs de la République autonome incorporée à l'Ukraine en 1954 se sont prononcés en faveur du retour dans le giron russe. Moscou, Étienne Bouche.
Le discours de Vladimir Poutine, donné un peu plus tôt dans la journée, résonne sur la place Rouge. La Crimée et la ville de Sébastopol rentrent à la maison. Pour les nombreux Russes venus assister aux festivités, c'est un jour historique, celui de la réunification. Nous sommes ensemble. Les couleurs de la Russie se mêlent au drapeau à l'effigie du président russe. Sergueï est fier.
Je suis venu parce que je soutiens Poutine et sa décision d'avoir réintégré la Crimée en Russie. Elle n'a jamais cessé d'être russe. C'était une erreur de Khrushchev et nous l'avons récupérée.
Sur son manteau, Elena porte le mot « Crimée » entouré d'un cœur. Elle est très émue.
Je suis fière, je me sens proche de tous ces gens dans ce rassemblement. La Crimée doit appartenir à la Russie, la Crimée est à nous. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu jusqu'à ce jour.
Sur scène, les discours politiques teintés de patriotisme ont laissé place à un concert. La manifestation aurait rassemblé plus de 100 000 personnes.
Pierre Conessa, écoutez ce que disait le même jour Daniel Valo, notre envoyé spécial en Crimée, à Simferopol.
Ils sont une demi-douzaine à écouter religieusement l'allocution de Vladimir Poutine. Autour du bras, ils portent le bandeau rouge des groupes d'autodéfense. D'habitude, ils montent la garde devant le Parlement de Crimée, mais se sont accordés une pause, le temps du discours.
Nous avons pu assister à ce moment historique, la Russie nous acceptant comme sujet de sa propre fédération. Poutine a réparé une injustice qui aurait dû l'être depuis bien longtemps. C'est un chef d'État qui tient parole et nous sommes fiers de lui.
À Simferopol, tout le monde n'a pas regardé d'un même œil le discours du président russe. C'est le cas de ce jeune père de famille parfaitement anglophone qui s'inquiète des méthodes autoritaires de Vladimir Poutine.
L'un de mes droits, c'est de pouvoir exprimer librement mes opinions. Et bientôt, j'en ai peur, ce ne sera plus possible. Il n'y aura pas une loi qui l'interdira, mais je crains d'être réprimé si je commence à dire ce que je pense de Poutine et de ce qu'il fait ici.
Le discours de Vladimir Poutine n'a pas vraiment rassuré cet habitant de Simferopol qui envisage désormais, comme d'autres partisans de l'Ukraine, de quitter la Crimée.
Après cette annexion, ce que l'on appelle la communauté internationale s'interroge : comment punir Vladimir Poutine et jusqu'où ? Écoutez ce qu'a dit mercredi l'ancien Premier ministre français Alain Juppé.
Il faut se mettre dans la tête que la Russie est un pays fragile. C'est un pays qui est en train de subir vraiment un véritable sinistre sur le plan démographique. C'est un pays qui est riche, mais qui a besoin de beaucoup d'investissements étrangers pour moderniser son système de production. Elle vit en réalité dans une économie de rente grâce aux recettes du gaz et du pétrole. Et si nous avons besoin du gaz russe, les Russes ont besoin de pays qui leur achètent leur gaz. Donc nous avons des moyens de pression sur la Russie. Encore faudrait-il que nous soyons décidés à les utiliser. Et ça passe par une union entre la France et l'Allemagne, qui pour aujourd'hui n'est pas très efficace, parce qu'on voit bien que l'Allemagne a des préoccupations vis-à-vis de la Russie qui l'amène à se montrer peut-être parfois moins déterminée qu'il ne le faudrait.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Pierre Conessa. Je m'adresse à l'expert des relations internationales et j'ai pas choisi d'ailleurs Alain Juppé par hasard. On parlera aussi d'Alain Juppé, ancien Premier ministre, on parlera de la France. Comment voyez-vous, vous, cette situation en Ukraine depuis cette annexion? Annexion qui est officielle puisque les deux chambres du Parlement russe ont ratifié cet accord de rattachement de la Crimée à la Russie.
J'avoue que je suis très inquiet parce que je sens une ambiance, non pas de guerre froide, mais de cette ambiance effrayante qui a précédé la guerre de 14, c'est-à-dire que
des pays... C'est l'actualité en plus.
Ah oui, absolument, absolument. Et ensemble, qu'au bout d'un siècle, on n'a toujours rien appris, c'est-à-dire qu'on se lance à la tête des principes, des arguments ou des points de vue, si vous voulez, qu'on applique nulle part ailleurs, que ce soit du côté des Occidentaux, du côté des Russes. On va reprocher à la Russie d'avoir annexé l'Ukraine, mais la Russie va nous opposer que nous-mêmes avons fait faire des sécessions à droite et à gauche et que nous ne dénoncerons pas d'autres occupations militaires ailleurs sur la planète. Donc, on est dans des positions où les gens devraient un peu se calmer pour essayer d'examiner tranquillement ce qu'a été le passé de la Russie depuis 1991. On peut comprendre que l'humiliation subie, en tout cas, a laissé des traces. On a d'autres exemples par le passé. Rappelez-vous l'Allemagne de 1918, ce sentiment, encore une fois, d'humiliation mal vécue. Parce que, à aucun moment, on a eu la main tendue qui permettait, en tout cas, d'associer la Russie à la gestion d'un certain nombre de crises. Rappelez-vous la crise du Kosovo où on est passé outre l'ONU. Bon. Donc, il y a eu des tas d'exemples dans le passé qui montre qu'on a des deux côtés des positions qui sont à la fois fragiles et fortes, et donc qu'on pourrait se calmer un peu et puis commencer peut-être à discuter un peu plus sérieusement.
Apparemment, se calmer n'est pas d'actualité.
C'est pas de l'actualité.
On est plutôt dans la surenchère de sanctions, et d'ailleurs la nature de ces sanctions est intéressante, sanctions économiques, aussi bien du côté américain que du côté européen.
Oui, mais si vous voulez, je trouve que cette ambiance est alimentée en partie par les intellectuels médiatiques, c'est-à-dire des gens qui sont tous en train d'essayer de pousser à la prise de position sur des principes, pas sur la réalité. C'est pas le sujet Ukraine qui les intéresse. Il faut défendre les grands principes, etc. Encore une fois, ce que nous n'appliquons pas ailleurs, mais ça fait dans le cas de la Russie, il semble que ce soit un point de cristallisation. Bon. Donc il y a cette catégorie des intellectuels. Il y a peu d'experts qui s'expriment, et souvent d'ailleurs ils font référence au passé, c'est-à-dire est-ce ou n'est-ce pas une guerre froide? Et puis troisième strate, il y a les politiques qui effectivement eux sont face à leur réalité intérieure, qui parlent de sanctions, mais qui savent très bien que ces sanctions ne sont pas aujourd'hui, on n'applique pas à la Russie des sanctions comme on l'appliquerait à Cuba. Et donc on sait très bien que il y aura un effet boomerang qui sera très grave, et on voit bien qu'il n'y a pas que la France et l'Allemagne. Les premiers à avoir dit qu'ils n'appliqueraient pas de sanctions sont les Anglais. Et comme chacun sait, vous savez, les Anglais n'ont pas de principes, ils ont des intérêts. Donc on est exactement...
Les intérêts russes à la City sont importants.
C'est les placements russes à la City. Nous-mêmes, nous avons des intérêts industriels importants. Et puis si vous voulez, si on s'amuse à mettre sous embargo des intérêts russes en Europe, ils vont mettre sous embargo des intérêts français, européens, allemands, etc. en Russie. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit une politique de force dans laquelle nous soyons obligatoirement gagnants.
Alors quand vous avez écouté Alain Juppé avec attention, Pierre Conesa, vous êtes dit quoi? Là, je parle de votre livre, surtout ne rien décider, cette incapacité des dirigeants français à réformer, à changer les choses, ça rappelle des souvenirs, Alain Juppé.
Ah oui, absolument, ça rappelle des souvenirs, c'est-à-dire ça rappelle cette tentative qu'avait fait Alain Juppé déjà en son temps de s'attaquer au problème des retraites.
Les régimes spéciaux, notamment.
Non, justement, parce qu'il avait dit qu'il ne s'attaquait pas aux régimes spéciaux. Or, la grève a été faite par les gens des régimes spéciaux. Et donc, paradoxalement, la France a été bloquée par des gens dont le statut n'était pas menacé. Et je trouve ça particulièrement caractéristique. C'est exactement la même situation que nous voyons aujourd'hui avec les intermittents du spectacle. C'est-à-dire, on ne touche pas mes privilèges. La caractéristique de la France, après le 4 août, n'a pas été d'abolir les privilèges, ça a été de les démocratiser. Et la France est un pays perclus de privilèges catégoriels. Et le tout dans une très grande opacité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce dont son voisin dispose, donc on ne veut pas discuter de ses propres avantages. Voilà. Donc c'est une situation où la politique a complètement failli.
Oui, et où on a, enfin vous écrivez, vous soulignez le fait que pour les politiques, ce qui est important, c'est de durer, justement.
Oui, alors effectivement, les politiques parlent beaucoup de stratégie de la France à horizon 2025, 2050, etc. Mais en fait, le véritable horizon stratégique pour les politiques, c'est sa réélection. Or, comme vous le savez, en démocratie, on a toujours une élection à venir. Hein, donc, on est toujours avant ou après une élection. Il y en a une demain. Bon. Et donc, à chaque fois, moi, je l'ai constaté quand j'étais dans l'administration, il y a un phénomène de paralysie de l'administration parce qu'il y a toujours une échéance électorale. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on perd les élections municipales qu'il faut changer de politique. Donc, si on est effectivement dans de la politique à 2 ans, il n'y a pas de stratégie.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons notre tour du monde, Pierre Conesa, avec la décision des États-Unis de fermer les représentations diplomatiques syriennes sur son territoire. Washington jeudi, Anne-Marie Capomaccio.
Les protestations syriennes et russes n'infléchissent pas la décision américaine. L'ambassade et les consulats syriens doivent fermer et tous les diplomates, tous les ressortissants syriens qui travaillent pour ces représentations devront avoir quitté le territoire américain au 31 mars. La décision a été prise par Washington depuis plusieurs semaines et respecte les conventions internationales, selon Jen Psaki, porte-parole du Département d'État.
Nous respectons non seulement le droit, mais aussi tous les aspects des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Département d'État assumera ses responsabilités concernant la protection des installations des missions syriennes si aucun autre arrangement n'a été trouvé et approuvé par le Département d'État d'ici au 31 mars.
Sur le dossier de la destruction des armes chimiques et une éventuelle reprise des négociations sur l'avenir de la Syrie, le Département d'État réfute les arguments russes de la même manière. Les États-Unis vont continuer à travailler à une solution politique tout en considérant, je cite, que le président Bachar el-Assad a fait la preuve qu'il n'a plus de légitimité à la tête de son pays.
Décision américaine donc, alors que cette semaine encore, le régime syrien a consolidé ses positions sur le plan militaire. À Beyrouth hier, Paul Khalife.
En s'emparant du krach des chevaliers, le régime syrien verrouille toute la frontière avec le nord du Liban et coupe la dernière voie de ravitaillement des rebelles dans cette région. La célèbre citadelle croisée, située à quelques kilomètres de la frontière libanaise, surplombe de vastes territoires dans l'ouest de la province centrale de Homs. Elle était occupée depuis 2 ans par des rebelles syriens et étrangers dirigés par un islamiste libanais, Abu Sulaiman al-Dandashi. L'armée syrienne a pris la forteresse après l'effondrement de la dernière ligne de défense des rebelles dans le village d'Al-Husn. Les combattants ont essayé de fuir vers le Liban avant la chute de la citadelle. Ils ont été attaqués par l'aviation et l'artillerie syrienne ou sont tombés dans des embuscades. Des dizaines d'entre eux ont été tués, blessés ou capturés. Une partie a quand même réussi à traverser la rivière qui sépare le Liban de la Syrie. Blessés ou exténués, ils ont été secourus par la Croix-Rouge ou des membres d'associations islamistes. Plus au sud, l'armée syrienne et le Hezbollah s'apprêtent à donner l'assaut à Rankous, une des dernières localités encore aux mains des rebelles dans les montagnes du Qalamoun. Si la localité tombe, le régime syrien aura réussi à sécuriser pour la première fois en 3 ans toute la frontière avec le Liban.
Et des avions israéliens ont attaqué mercredi des positions de l'armée syrienne, faisant au moins 1 mort et 7 blessés parmi les soldats syriens lors de la plus grave escalade depuis 40 ans sur le plateau du Golan, occupé, on le sait, par Israël. Depuis la guerre de juin 1967, ces raids ont été lancés en représailles à l'explosion d'un engin piégé au passage d'une patrouille israélienne. Suite d'une semaine d'actualité, Pierre connaît ça, c'est la Syrie, vous suivez ça aussi avec attention. On a l'impression qu'il y a un virage là en ce moment, un changement.
On a l'impression effectivement qu'il y a une espèce de basculement militaire, sur le plan militaire évidemment. Ouais. Cela dit, la crise syrienne est assez révélatrice de ce qu'on a constaté sur d'autres lieux de crise sur la planète, c'est-à-dire qu'on s'est engagé au nom de principe sans se demander quelle était la réalité sur le terrain. Rappelez-vous, ces lignes rouges définies aussi bien par les Américains que les Français à propos de l'utilisation des armes chimiques et le retrait progressif des Anglais puis des Américains qui nous ont laissés seuls en race campagne alors que nous n'avions pas le début des moyens nécessaires à frapper des sites. Je frémis d'ailleurs à l'idée qu'on aurait pu frapper des sites équipés d'armes chimiques parce que je ne sais pas quel aurait été le résultat de ces bombardements. Et donc on s'est engagé là-dessus sans jamais se demander quelle était la nature de l'opposition qui est sur le terrain. Or on constate au fur et à mesure des avancées que la partie, disons, la plus radicale des islamistes et djihadistes qui sont sur le terrain, elle n'est pas du tout, disons, ce qu'on pourrait appeler une partie, un parti politique libéral. Bon. Deuxième aspect qui me paraît toujours très intéressant également, c'est l'ambiguïté de notre relation à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que si, ma foi, il y a des gens qui peuvent aider la résistance syrienne démocratique, doit-on s'en appeler à l'Arabie Saoudite? Je ne suis pas sûr que ce soit la partie qu'elle aide le plus. Et puis d'autre part, s'il s'agit d'aider les réfugiés syriens et les accueillir, ma foi, l'Arabie Saoudite présente toutes ses caractéristiques. Elle a de l'argent et de l'espace. Or, il n'est pas question du tout qu'il y ait des Syriens sur le territoire saoudien. Donc je commence à me demander si la France n'est pas en train de s'aligner sur les salafistes les plus radicaux du côté de l'Arabie Saoudite dans une guerre qui prend de plus en plus la dimension d'une guerre sunnite-chiite à l'échelle du monde arabo-musulman. Donc on est parti un peu comme ça, drapeau au vent, sans se demander quelle était la caractéristique de la crise. Je m'inquiète un peu.
Alors pour reprendre un titre qui concerne la politique française et les hommes politiques français dans votre livre, Pierre Connaissat, la situation est excellente mais pas désespérée.
Absolument, je trouve que c'est une phrase qui s'applique très bien à notre pays, c'est-à-dire que on passe notre temps à dire quels sont nos atouts, qui sont réels d'ailleurs, mais surtout à ne toucher à rien. C'est-à-dire que on explique que l'avenir s'ouvre gradueux devant nous si nous savons faire un certain nombre d'efforts, mais surtout pas de réformes. Donc la France est un pays, n'est pas un pays de réformes, c'est un pays de révolution. J'espère qu'on ne sera pas obligé de repasser par cette étape-là.
Alors Pierre Connaissat, vous êtes un esprit impertinent. On avait parlé ensemble de l'ennemi, la fabrique de l'ennemi. Vous avez parlé aussi du paradis dans vos essais. Cette impertinence porte sur le monde politique français, mais ce constat est désespérant.
Ce constat est assez désespérant, effectivement, parce qu'au départ, ma réflexion était partie d'un constat banal de simplicité, c'est qu'aujourd'hui ce n'est plus la décision politique qui guide la vie politique française, mais c'est la non-décision, c'est-à-dire c'est comment éviter les sujets les plus bruyants. Et ça c'est toute une technique, c'est-à-dire que moi ce qui m'a guidé au départ c'était le constat que le rapport Rueff, commandé par le général de Gaulle en 58 pour permettre à la France d'affronter l'Europe, relevait un certain nombre de scléroses sociales de la société française qui sont exactement les mêmes que celles que relève le rapport Attali demandé par le président Sarkozy il y a quelques années. Bon. C'est donc qu'en 50 ans, nous n'avons strictement touché à rien. Bon. Or, comment expliquer ça, si ce n'est par le fait que, justement, on préfère soigner les symptômes que la maladie?
Mais pourtant, les rapports de la Cour des comptes, parce qu'elle est très présente dans votre livre, évidemment, ça cumule.
Oui, mais enfin, rappelez-vous
que pendant... Par exemple, pour ne parler que d'elle.
Rappelez-vous que pendant longtemps, les parlementaires n'avaient pas droit à la communication du rapport complet de la Cour des comptes. C'est quand Pierre Joxe est devenu premier président de la Cour des comptes qu'il a été communiqué au Parlement. Donc c'était quand même une République, au début de la naissance de la Ve République, c'était quand même, faites des constats, mais surtout ne vous occupez pas des parlementaires. Bon. Ça, c'est un point extrêmement important. Et d'autre part, qu'est-ce qui a suivi ces conclusions de le rapport de la Cour des comptes? Souvent, c'est resté sans effet. J'en cite un certain nombre. Des rapports qui s'attaquent à des catégories particulières, à des avantages particuliers, etc. Et encore une fois, on est exactement sur le même constat 50 ans après.
Et vous écrivez, Pierre Connaissat, que le réformateur véritable est une sorte de zébulon immaîtrisable et perturbateur. Alors, on peut pas, il y a des exemples, hein, d'hommes politiques qui ont disparu. Vous les citez, d'ailleurs, hein, qui étaient vraiment d'authentiques réformateurs. Pierre Manès-France, Barre, ils n'ont pas eu la carrière, qu'ils pouvaient espérer.
Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que
Chevènement.
Le réformateur est tué par son propre camp. Il n'est pas tué par son adversaire. Vous savez, c'est une des caractéristiques de la vie politique, c'est que en vie politique, il faut se méfier de ses amis, pas de ses ennemis.
C'est une règle d'or, oui.
Parce que ses ennemis, on sait où ils sont. Par contre, ses amis, c'est ceux qui visent les mêmes postes que vous et donc qui peuvent vous planter un couteau dans le dos. Et donc, le réformateur, c'est l'individu qui, justement, apporte des idées, mais qui risque de faire perdre les prochaines élections, puisqu'il va s'attaquer à des corporatismes. Donc, en général, il est éliminé par son propre camp. Alors, j'ai cité l'exemple de Mendès, tué par Edgar Faure, j'ai cité l'exemple de Rocard, tué par Mitterrand, j'ai cité l'exemple de Barre, tué par Chirac, parce qu'encore une fois, le réformateur, c'est celui qui risque de faire perdre les élections s'il s'attaque véritablement au problème. Donc, il vaut mieux la promesse, si vous voulez, d'un avantage supplémentaire que la promesse d'un passage difficile.
On parlera un peu plus de la France dans la deuxième partie de l'émission, Pierre Connaissat, mais tout ça est tellement désespéré qu'il faudra surveiller demain le niveau d'abstention.
Absolument, oui, absolument. Ça risque d'être malheureusement le parti le plus important de France, hein, celui des abstentionnistes, puisque le marécage dans lequel s'est engagée la vie politique française depuis quelques semaines...
On va en parler dans un instant, oui.
Ouais, qui font qu'on parle plus de cela que de mon bouquin, fait que véritablement, je comprendrai les Français...
C'est une faute de goût, ça.
Pardon. C'est une faute de goût. Et donc, on risque de plus en plus d'avoir des abstentionnistes qui se disent, mais à quoi bon choisir entre la droite ou la gauche, voire pire encore, de se dire, autant renouveler les équipes, c'est-à-dire voter Front National.
Pierre Conessa, nous allons écouter quelques informations de ces dernières heures et se retrouver dans 3 minutes. À tout de suite.